j'ai dit ce matin, si vous voulez, conditionne déjà complètement ce que je vais dire cet après-midi sur la dimension spirituelle, puisque ce matin, je vous ai dit, je ne fais pas les choses par ma bonne volonté ou pour exercer de la bientraitance à l'égard de ces pauvres gens qui sont malades. Je suis l'Église présente à des gens qui devraient être avec nous et qui ne peuvent pas être avec nous à cause de la maladie, à cause du handicap, à cause du vieillissement, ils ne peuvent plus se déplacer. L'Église manque, c'est elle qui manque, et donc je suis une excroissance de l'Église pour permettre une communion. Et c'est pour ça que je dis, tout cela est bien plus important que l'hostie. L'hostie est un élément de communion, mais le plus important, c'est la communion avec des gens qui sont excommuniés. Ben, ils sont excommuniés parce que ils ne peuvent plus participer à la communion. C'est tout bête, c'est étymologique. Donc, ces gens qui sont excommuniés, on ne les a pas excommuniés, mais ils sont excommuniés. Et je vous dis, il y a des gens qui disent, mais enfin, pendant des années, j'étais là, et plus personne ne me fait signe. Et voyez bien, tout à l'heure, vous disiez, comment savoir? Ben oui, demandons quels étaient les gens qui, et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Les gens qui étaient là, etc. Bon. Donc, le souci de ceux qui devraient être là et qui ne peuvent pas y être, pour que l'Église soit le corps du Christ. Et donc signifier à ces gens-là, en établissant un lien de communion, de signifier à ces gens-là qu'ils font partie de l'Église. Alors je voudrais là partir d'un texte que vous connaissez bien, qui est Marc au chapitre 2. Marc au chapitre 2, c'est Jésus qui est à Capharnaüm, sans doute dans la maison de Pierre, qui est une petite baraque. Ceux qui vont à Capharnaüm la voient, la pièce, une douzaine de personnes, ça fait déjà remplir. Bon. On nous dit qu'il y avait tellement de monde, n'imaginez pas une pièce comme celle-ci, qu'il y avait tellement de monde qu'on ne pouvait plus rentrer dans la pièce, et des gens amènent un paralysé, vous connaissez ce passage. Ils sont inventifs, ils ouvrent le toit qui était fait sans doute de branchage, et ils font descendre la civière. Que nous dit le texte? Voyant leur foi. Notez qu'ils n'ont strictement rien dit. Hein. Je vous ai dit ce matin, la foi, c'est ce qui se voit et pas ce qui se dit, contrairement à ce qu'on dit trop souvent dans l'Église. Hein. Voyant leur foi, Jésus dit aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés. Pourquoi il dit cela? Parce que le pire, c'est pas d'être paralytique. Le pire, c'est pas d'être handicapé, c'est pas d'être vieux, c'est pas d'être malade. Le pire, c'est d'être coupé de Dieu. Et ça, il faudrait que nous, croyants, nous le pensions. Le pire, c'est d'être coupé de Dieu. C'est ça le péché. Et c'est vrai que la maladie, surtout quand il y a des formes de dépression, le handicap et la vieillesse conduisent, hélas, trop souvent à avoir l'impression que Dieu nous a oubliés. Ce qui est le péché, c'est ça le péché, c'est pas de manger du chocolat, c'est de croire que la communication est coupée avec Dieu. Et c'est vrai que nous ne cessons de rencontrer des gens. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas immédiatement partir sur le bon Dieu. C'est que quand on est marqué par la maladie, que ce soit physique, je ne parle pas du rhume, hein, quand on est marqué par la maladie, physique ou psychique, quand on est marqué par le handicap, quand on est marqué par la vieillesse qui se passe mal, vous avez des gens qui à 95 ans font du vélo, tout va bien, il n'y en a pas tant que ça. Donc quand on est marqué, c'est vrai qu'on a cette impression, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Pourquoi est-ce qu'il m'oublie? C'est-à-dire qu'on entre dans une démarche de péché, et une des formes du péché, bien sûr, c'est la dépression. Parce que j'ai l'impression que je suis coupé. Et c'est pour ça que Jésus dit à cet homme, tes péchés sont pardonnés. C'est-à-dire, ce qui te coupe de Dieu, c'est fait. C'est... Et d'ailleurs, nous, dans l'Église, dans le credo, nous disons, nous croyons au pardon des péchés. Nous ne croyons pas au péché. Le péché, il n'y a pas besoin d'y croire. Il est. Le péché, c'est ce qui nous coupe de Dieu. Hein? Eh bien, le pardon des péchés, c'est dire, mais t'es pas coupé de Dieu. Et vous voyez que je dis déjà cela quand j'entre dans la chambre de quelqu'un qui ne va pas bien. Bonjour, je suis du service des malades de la paroisse. Ça veut dire, allez, vous pourriez dire que tes péchés sont pardonnés, mais la personne se demandait. Hein? Mais par votre présence, vous signifiez que la personne n'est pas excommuniée. C'est-à-dire, ça y est, il y a du lien. Même si on ne va pas plus loin, il y a du lien. Donc Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Et alors les gens qui sont là sont étonnés qu'un bonhomme puisse dire cela. Parce que Dieu seul peut redonner la vie. La relation avec Dieu est une relation de grâce. Hein? Et Dieu seul peut donner la grâce. C'est logique. Donc les gens sont étonnés que Jésus prétende donner la grâce. puisque pour eux, pas pour vous c'est évident que Jésus est le Fils de Dieu, ben, j'espère, mais pour eux, cet homme-là se prend pour Dieu, puisqu'il rétablit la relation qui est coupée. Donc quand il dit « tes péchés sont pardonnés », il prend la place de Dieu. Mais vous aussi, physiquement, lorsque vous établissez ce lien, et d'ailleurs, vous le savez, X fois j'ai entendu des gens travaillant en aumônerie qui me disent « j'ai entendu des confessions merveilleuses ». Alors vous n'avez pas donné l'absolution, c'est clair. Mais vous avez entendu parce que les gens sentent bien que vous êtes signe d'une relation avec Dieu. Et ils disent des choses qui sont lourdes à vivre. Ils vous disent leurs péchés. Ils vous disent des choses qu'ils n'auraient jamais dit. Quelquefois, ils disent « je ne vois pas pourquoi je vous dis tout ça, mais ça me fait du bien ». Parce que vous êtes signe de réconciliation, puisque justement, vous signifiez la communion. Et vous savez donc qu'en Marc 2, Jésus dit « tes péchés sont pardonnés ». Il y en a qui commencent à rouspéter. Et il dit, et vous connaissez la phrase, « afin que vous croyiez que le Fils de l'homme a pouvoir de pardonner les péchés ». Alors c'est très intéressant, c'est la fin de la phrase. « Jeune homme, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et marche. » Lève-toi, c'est ressuscite. J'ai vu des gens qui, sous mes yeux, se levaient la veille de leur mort ou le jour de leur mort. C'est-à-dire qui, en fait, étaient ressuscités. Alors, mécaniquement, enfin, médicalement, ils allaient mourir, mais ils étaient ressuscités. Je me souviens, Karim, qui me disait, Jean-Marie, il m'avait tutoyé dès le premier jour où on s'est vu pendant 3 semaines, les 3 dernières semaines, il me dit, Jean-Marie, c'est de l'or. J'allais le voir le soir vers 8h, 8h30, on était tranquille dans l'hôpital. Jean-Marie, c'est de l'or. Ce qu'on échangeait, c'était de l'or. Eh bien, ça, c'est se lever. C'est-à-dire qu'il est mort debout. C'est ça, ressusciter. C'est pas seulement de la réincarnation, c'est pas je vais mieux. Vous n'imaginez pas que votre arrivée, le médecin, quelquefois, on peut espérer que ça aille un peu mieux, mais vous, c'est pas votre arrivée qui va faire mieux aller. Mais par contre, vous pouvez amener des gens, même s'ils ne le disent pas, à se lever. Marcher, c'est tout bête, mais c'est vivre, parce qu'il ne suffit pas d'être vivant, il faut vivre. Et entre les deux, moi j'aime beaucoup que Jésus dise « prends ton grabat ». Alors je me suis souvent demandé pourquoi est-ce qu'il disait « prends ton grabat ». Parce qu'il aurait pu dire « laisse là ton grabat » ou « tu le mets dans la poubelle » ou « tu le mets dans la... » Prends ton grabat, tout simplement parce que même la rencontre de Dieu ne supprime pas la souffrance. Sauf qu'on n'est plus étalé dessus et qu'on la souvra. Ce qui change radicalement. J'espère que des gens, en vous rencontrant, se redressent intérieurement. J'espère que des gens, en vous rencontrant, prennent leur grabat. Ils ont toujours les mêmes problèmes. Vous savez, quand je rencontre une maman ou un papa qui a perdu son enfant, ça ne ressuscite pas l'enfant. Mais parfois, je ne peux pas dire à chaque fois, parfois, au lieu d'être sur leur grabat, démoli, ils prennent leur grabat. J'ai vu une mère comme ça qui avait perdu son fils unique dans un accident de la route quelques mois, quelques semaines après qu'il ait eu son permis de conduire. Et elle a pris, lui a peu parlé et il a continué de faire des déprimes. Elle, beaucoup parlé, entre autres avec moi, et elle est entrée dans une association contre la violence routière où elle allait dans les collèges pour parler de la violence routière, de dire aux gamins, il faut faire gaffe avec ça. Maintenant, elle est en aumônerie d'hôpital et elle fonctionne très très bien. Elle a pris son grabat. Son fils, de toute manière, est mort. Mais au lieu d'être allongée, ce qui est un peu encore le cas de son mari, elle a pris son grabat. Pour moi, c'est essentiel. Dieu ne supprime pas les souffrances. Je fais maintenant une distinction entre souffrance et douleur parce qu'il faut qu'on ne se méprenne pas. La douleur, c'est une réalité physique ou psychique. Quand vous avez une rage dedans, ce n'est pas une souffrance, c'est une douleur. Une douleur se soigne et se calme. On arrive aujourd'hui à peu près à soigner toutes les douleurs. Il y a des phases terminales de cancer où on a du mal, mais on arrive à peu près à soigner toutes les douleurs. Les douleurs n'ont aucune vertu et la douleur n'est pas rédemptrice. Je précise cela parce que jusqu'à il y a peu, des médecins obstétriciens ne souhaitaient pas la péridurale en disant « il est écrit que la femme doit enfanter dans la douleur ». On peut être médecin et dire des idioties. La douleur n'a aucune vertu. Elle bestialise. Distinguons la douleur de la souffrance. Le problème, c'est que c'est le même verbe, souffrir. La douleur, je le répète, je la subis. Et autant que faire se peut, le plus vite possible, il faut la réduire, la faire disparaître, la combattre. Alors que la souffrance, il ne faut surtout pas la faire disparaître. Il ne faut surtout pas la combattre, il faut l'écouter. J'oserais même dire qu'il faut la faire naître. Je vais m'expliquer. Je reprends mon exemple d'une maman ou d'un papa qui perd un enfant, vous n'allez pas leur donner des calmants. Et si 20 ans plus tard, ils continuent de vous dire que leur vie a été détruite, ils ont raison de vous le dire. Et vous n'allez pas leur dire, mais enfin, vous me l'avez déjà dit, et puis ça fait 20 ans. La souffrance ne se combat jamais, elle s'écoute. Des gens se sont suicidés parce qu'on les avait licenciés. C'était une souffrance à leurs yeux, ce n'était pas une douleur, c'était une souffrance qui démolissait leur vie, leur idée qu'ils avaient d'eux-mêmes. Il faut écouter les souffrances, non pas pour les faire taire ou les réduire, mais parce que la souffrance révèle le cœur de l'homme. La souffrance n'est pas un manque d'amour, c'est un trop d'amour. Si vous regardez ce qui se passe avec les réfugiés et que vous continuez de manger tranquillement, c'est que vous n'avez pas beaucoup d'amour. Si ça vous empêche de manger ou si ce n'est pas facile de digérer, c'est que vous avez de l'amour. La souffrance, c'est l'écho de l'amour qui est en vous. Et donc, si j'écoute la souffrance de l'autre, c'est parce que j'écoute l'amour qui est en l'autre. Je prends un exemple où souvent j'ai dit que ma tâche était d'être mailloticien, la souffrance. J'ai rencontré des gens comme ça qui m'annonçaient des hommes, 45, 50 ans, je suis licencié. Alors comme c'est des hommes, ils ne pleurent pas. Hein. On leur a dit depuis qu'ils étaient petits que si t'es un homme, il ne faut pas pleurer. Et je leur dis, ça ne va pas être évident. Alors comme c'est des hommes, ils disent, oh, on va voir, on va s'arranger. Et moi, je repose une question. Comment tu le vis ? Oh, ça va, ça va. T'es sûr que ça ne te démolit pas ? Je poserai autant de questions qu'il le faut jusqu'au moment où ils vont craquer. C'est-à-dire où la carapace va craquer. Non pas parce que je suis sadique, mais parce qu'il faut qu'ils adviennent jusqu'à dire ce qui est au fond d'eux-mêmes. Un gars qui a travaillé 20 ans, 25 ans dans une boîte, quand il se fait virer comme un malpropre, ne peut pas dire « c'est pas grave ». Et si vous en connaissez, ça les fait chialer quand ils sont vrais avec eux-mêmes. Et moi, je ne suis pas sadique, mais j'ai envie qu'ils aillent jusqu'au bout de ce qui est blessé dans leur amour. Le regard qu'ils portaient sur leur vie, le regard qu'ils portaient sur leur famille, etc. Et que plutôt que de dire « c'est pas grave », vous avez des gens qui aussi, devant la mort, disent « c'est pas grave ». Vous savez, aujourd'hui, l'expression complètement idiote, c'est « faut tourner la page ». Vous avez des gens qui vous disent de toute façon, c'est la vie. Mais moi, comme je suis non pas sadique, mais comme j'aime les gens, je vais les emmerder jusqu'au moment où ils vont pleurer. Parce que c'est pas vrai qu'on dise... Vous savez, je trouve ça extraordinaire, les publicités pour les contrats d'obsèques. Comme cela, vos enfants ne seront pas embêtés. Je trouve ça extraordinaire, hein. Il y a un truc qui permet aux enfants de n'avoir aucune souffrance à la mort de leurs parents. Parce que tout est organisé, donc tout va bien. J'ai un ami canadien qui m'avait envoyé une publicité dans un magazine. Il y a une société qui organisait les funérailles sans la présence des familles. Ils faisaient des cassettes et ils envoyaient ça. Alors, des CD. Alors, c'est vrai qu'au Canada, vous avez parfois la famille qui est à 5000 km, peut-être 1000 km. Mais c'est pratique. Vous n'êtes pas embêté, vous n'arrêtez pas de travailler, donc tout va bien. Et puis, 15 jours plus tard, on vous envoie la cassette et vous regardez les obsèques de votre mère en buvant un whisky. Mais vous savez que vous dites cela, mais combien de gens n'ont que 24 heures pour les obsèques de leurs parents et doivent retrouver un grand sourire 48 heures plus tard pour travailler et se font engueuler s'il n'y a pas un grand sourire. Vous vous souvenez pas, mesdames, dans le temps, quand vous étiez en noir ? Et messieurs, quand on avait du crêpe pour dire « attention, chose fragile ». Nous sommes dans une société scandaleuse où il ne faut pas souffrir, où il ne faut pas montrer qu'on est fragilisé par la vie. Et donc, notre tâche d'écoute de la souffrance, je répète, pas de la douleur, de la souffrance, c'est de permettre à toute personne de pouvoir exprimer ses blessures affectives. Là où Dieu nous rejoint au plus profond, là où notre identité ou notre dignité d'enfant de Dieu est blessée. Et je ne peux pas juger quelqu'un. Je ne peux pas dire à quelqu'un, enfin, tourne la page. Parce que je ne suis jamais, déjà la douleur ne peut pas se comparer, vous le savez. Hein. Mais la souffrance ne peut absolument pas se comparer. C'est pour ça que quand quelqu'un vous dit qu'il n'est pas bien, qu'elle n'est pas bien, il ne faut pas faire du prêchi-prêcha. Oh, tout de même, vous avez vos enfants qui viennent vous voir. Ça. Et ce n'est pas le problème. La personne, elle pleure parce qu'elle se sent seule. J'écoute la personne pleurer parce qu'elle se sent seule, même si les infirmières me disent « Mais vous savez, ses enfants sont nus hier. » Et je ne suis pas là pour dire « Mais il ne faut pas pleurer, d'ailleurs vos enfants sont nus hier. » Au nom de quoi je vais faire taire une souffrance qui s'exprime. Et je vais plus loin. Dieu a souffert de souffrance. C'est tout bête, hein ? Vous lisez et vous le voyez à Gethsémani. Si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et dans la lettre aux Hébreux, il nous sera dit que c'est dans une nuit de pleurs et de sang qu'il a obéi à son Père. Parce que pour Jésus, il y avait vraiment l'impression que la mission, elle avait capoté. Pas facile quand on est fils de Dieu d'avoir l'impression que sa mission, ça a mal marché. Même le meilleur, hein, va le trahir dans quelques heures. Et donc, c'est vrai que cette souffrance-là, et Jésus aurait bien aimé que tel ou tel des disciples, au lieu de ronfler, partage sa souffrance. Vous n'êtes même pas capable de veiller avec moi. Et donc, l'enjeu de notre présence, c'est de nous rendre capables d'entendre la souffrance d'hommes et de femmes, et d'entendre cette souffrance. Je répète pas la douleur. Hein. La douleur, c'est pour le médecin, l'infirmière, et il faudra augmenter la dose de morphine, ou ceci ou cela. Mais d'entendre la souffrance, parce que la souffrance dit la vérité la plus profonde de la personne. Et je suis sûr que parmi la centaine de personnes présentes ici, je suis sûr qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont des souffrances en travers de la gorge. J'en suis sûr. Et je suis sûr que vous êtes nombreux ou nombreuses à espérer qu'un jour, une oreille sera le berceau de votre parole de souffrance. C'est-à-dire, je suis sûr que nous avons... Il n'y a pas les gens solides d'un côté et les autres. Nous sommes tous fragilisés par l'existence. On n'a pas choisi d'être fragile. On est tous fragilisés par l'existence. On a tous des choses en travers. Tiens, je vais vous raconter... Et il y a quelques années, on avait fait au niveau national une rencontre autour des gens présents en maternité et autour des IMG, des interruptions médicales de grossesse. Bon, et puis, donc, moi, dans le cadre de la revue, on avait fait tout un numéro là-dessus. Et j'avais une réunion d'équipe en pédiatrie à Tours, là, et on s'est mis à parler de cela. Et tout d'un coup, l'une des personnes a dit... Ce qui me fait mal, c'est qu'il y a 25 ans, j'ai fait une fausse couche. Mon mari m'a amené à l'hôpital, puis il est parti travailler. Et j'ai dit merci, je ne vais pas vous dire son prénom. Merci de nous dire cela. Que 25 ans plus tard, c'est toujours pas passé, non pas la fausse couche, mais que ton mari n'ait pas cru nécessaire de ne pas aller au travail ce matin-là et d'être avec toi. Ce que je trouvais merveilleux, et je ne suis pas sadique, c'est que je trouvais merveilleux que dans le courant de la conversation, ça venait à la surface. Et c'est là où c'est merveilleux nos vies d'équipe, c'est qu'elles permettent aussi que nous, et je le répète, nos souffrances disent notre cœur blessé. Et c'est pour ça que quand quelqu'un dit une souffrance, je ne vais pas juger, je ne vais pas interpréter, j'accueille et je ne peux dire que merci. Merci de me partager cela. Et c'est vrai qu'il faut pouvoir dire merci à des gens qui, sans raison, alors qu'ils ne nous connaissent pas peut-être, vont exprimer des choses. Et comme ils le disent, je ne vois pas pourquoi je vous dis cela. Je me souviens de cet homme, ce n'est pas moi qui l'ai reçu, c'est une femme qui a entendu cette confidence, qui pleurait parce qu'il allait mourir et que depuis 20 ans, il n'avait pas vu sa fille parce qu'il l'avait foutue à la porte puisqu'elle était avec un noir. Et qui ne voulait pas voir de noir, donc bah, ils en ont tiré la conclusion, ils ne sont plus revenus. Et il se trouvait comme un vieux con. Il allait mourir sans avoir revu sa fille. C'est là, si vous voulez, où notre écoute est extraordinaire parce que elle est l'écoute de ce qui est brisé dans l'être humain. Je répète, cette souffrance, le grabat, nous n'allons pas l'enlever. Nous allons permettre, parce que ça va être dit, de ne plus être ce sur quoi on est étendu immobile, mais ce qu'on porte avec nous. Et que ça ne nous empêche pas d'être levé et de marcher. Et nous marchons tous avec des souffrances sous le bras. Tous. Ce que j'espère, c'est que nous ne marchons pas avec des souffrances en travers de la gorge. Parce que j'ai même vu des gens où parfois une émission de télé, parce qu'elle évoque quelque chose qu'ils ont mal vécu et dont ils n'ont jamais parlé, se mettent tout d'un coup à éclater en sanglots. Parce que ça, on n'a jamais pu mettre des mots. Et je vous signale que ce n'est pas le couple qui est le lieu le plus idéal pour partager les souffrances. Vous savez très bien comme moi qu'il y a des couples qui, traversant la souffrance, entre autres, de mort d'enfant, se séparent. Il y avait eu un très beau film qui s'intitulait « La guerre est déclarée », vous l'avez peut-être vu, où un jeune couple, enfin couple, ils avaient fait l'amour, donc ils étaient devenus couple, un enfant, l'enfant a une tumeur cancéreuse, ils vont se battre pendant 3 ans à la fois contre la tumeur, ils vont se battre pour que le cancer ne bouffe pas leur existence, l'enfant va être sauvé, mais le couple va éclater. Et ça, je l'ai vécu des tas de fois. Parce que la souffrance, c'est extrêmement difficile à accueillir, il ne faut pas partir du principe que dans un couple, bien sûr qu'on partage tout et qu'on partage à soi. C'est pas simple. Quand les parents de l'un meurent, ce ne sont que les bons parents de l'autre. Et ce n'est pas si simple de souffrir de la mort de ses beaux-parents comme de la mort de ses parents, c'est évident. Et donc, il y a parfois une sorte de zone de silence. Celui qui voudrait qu'on parle dit « mais il ne m'en parle jamais ». Et puis l'autre se dit « je ne vois pas comment lui en parler ». Alors si déjà, quand je dis ça, c'est parce que j'ai entendu. Donc si déjà des gens viennent se confier, on peut essayer de dire, mettez des mots sur vos souffrances, ça ne va pas les calmer, mais mettez des mots. Parce que ces grands silences sont extrêmement dangereux. Parce qu'ils brisent une part de notre existence et une part de notre relation à Dieu. Vous savez, quand il est dit dans la lettre, Pierre, non pardon, dans la deuxième aux Corinthiens, je vous en supplie, laissez-vous réconcilier. C'est là que ça joue. C'est que la souffrance est une brisure et que nous sommes tous invités, surtout dans une année comme celle-ci, de la miséricorde, à laisser l'amour de Dieu nous réconcilier d'abord avec nous-mêmes, avec notre histoire. Et que nous sommes tous invités à ne pas être étendus sur nos grabats, mais à les porter. Alors on peut faire ce travail tout seul, peut-être. Mais c'est tellement plus facile quand il y a une oreille qui est le berceau de notre parole et de l'expression de notre souffrance. C'est tellement plus facile, si vous voulez, quand je touche du doigt la réconciliation, la tendresse de Dieu, grâce à d'autres. Je racontais là aussi cette histoire que j'ai trouvée merveilleuse, et ça se passe souvent dans les unités de soins palliatifs, dont l'un des centres d'intérêt, n'étant plus la guérison, c'est de permettre il y ait de la communion, de permettre que chacun puisse, j'allais dire, vivre ce qui va être une séparation le mieux possible. Et donc, dans ce cas-là, c'était la fille d'une personne que je connaissais bien puisqu'elle animait les chants, et je savais qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre la fille et sa mère, et je savais que la fille avait divorcé et qu'elle s'était battue avec son mari pour obtenir la garde des enfants. Elle avait obtenu la garde des enfants. Et puis un cancer est arrivé sur le truc, et elle s'est retrouvée en soins palliatifs, sachant que c'était la fin. Tout le travail des gens de l'unité de soins palliatifs a été de faire qu'elle se réconcilie avec son mari, parce qu'après s'être battue pour avoir les enfants, il fallait maintenant qu'elle lui confie les enfants. Et ça a été un très beau travail de réconciliation, par-delà les souffrances. Parce que si elle s'était battue pour avoir les gardes des enfants, on s'imaginait bien que pour qu'elle donne elle-même à son ex ce que je vois les enfants. Et puis après, ils se sont battus pour qu'elle se réconcilie avec sa mère. Il n'y avait plus de père, et ça a été un sacré travail plus difficile que le premier. Et elle n'est morte qu'après la réconciliation avec sa mère. Je dis chapeau, chapeau au service de soins palliatifs. Chapeau parce qu'ils ont, tout laïcs qu'ils sont, permis ce travail de réconciliation. C'est-à-dire ce travail où Dieu se rend présent. Tes péchés sont pardonnés, ce qui te coupait est réconcilié. Dieu seul peut le faire, ben oui, mais des tas d'hommes et de femmes peuvent en être les témoins. Et donc nous, qui sommes l'Église présente dans tel ou tel lieu, nous avons prioritairement à rendre possible ce travail de réconciliation en soi, réconcilier avec son histoire. Oui, il y a des souffrances dans ma vie, et il faut que je fasse avec. Quand je pense que des amis notaires me disent qu'au moment de traiter des successions, il y a des gens qui se bouffent le nez parce qu'il y a 60 ans, maman était plus gentille avec toi qu'avec moi. D'ailleurs, à Noël, elle t'offrait toujours des... On se dit, mais pendant 60 ans, ils ont eu ça en travers de la gorge et c'est pas encore guéri. Ils n'ont pas réussi à dire, ils se sont bousillés une part de leur existence, ils n'ont pas réussi à laisser une réconciliation advenir dans leur existence. Eh bien, notre présence, notre qualité d'écoute, même quand on ne parle pas de Dieu, si elle permet à des hommes et à des femmes d'exprimer ces souffrances, en les exprimant, d'exprimer cet amour blessé qui est en eux, en exprimant cet amour blessé en eux, de pouvoir se réconcilier avec leur propre histoire, prends ton grabat, ne sois plus étendu dessus, prends-le et vis avec. Si nous permettons cela, nous sommes dans une fonction, comment dire, chrétienne, une fonction christique, extraordinaire. Alors que quelquefois, j'ai entendu des gens dire « c'est dommage, on ne prie pas ensemble, c'est dommage, on ne parle pas de Dieu ». Tant mieux si on parle de Dieu, tant mieux, ne me faites pas dire l'inverse de ce que je veux dire, tant mieux. Mais voyez bien que si vous parlez de Dieu en oubliant de laisser exprimer des souffrances, c'est dommage, parce qu'on a mis une sorte de cotter sur une jambe de bois. C'est-à-dire, vous avez parlé du bon Dieu, mais vous n'avez pas parlé de ce qui bloque au plus profond la prière, la paix. Et dimanche, vous étiez à la messe dimanche, la paix soit avec vous. Si je rencontre le Christ et si je suis signe du Christ, c'est pour que cette paix... Alors n'entrez pas dans une chambre de malade en disant « la paix soit avec vous », les gens souriraient en se demandant. Hein. Mais si vous êtes facteur de paix, et vous l'entendez, j'en suis sûr, souvent, « merci, ça m'a fait du bien. Merci. Comment vous remercier ?» Vous voyez, c'est tout. Et dans ma prière, je ne vais pas dire « ah là là, je suis tout de même doué. Hein. » Je vais rendre grâce. Sans toujours saisir, parce que je ne sais pas toujours... C'est vrai que j'entends des choses merveilleuses, et vous aussi, mais même si je n'ai pas tout entendu, pouvoir me rendre compte que Dieu était là, à l'œuvre, même si on n'a pas parlé de lui. C'est ce que dit Jacob, vous savez, après la nuit, Dieu était là et je ne le savais pas. C'est-à-dire se rendre compte qu'il est à l'œuvre, qu'il se passe quelque chose à travers notre présence. Que c'est extraordinaire de voir des gens se réconcilier avec eux-mêmes, se réconcilier avec leurs conjoints, leur famille, etc. Et le cas échéant, se réconcilier avec Dieu. Que ça, c'est un travail extraordinaire, qui est un travail, j'allais dire, christique. C'est-à-dire que je suis dans la position du Fils de l'homme rencontrant cet homme descendu sur sa civière. Tes péchés sont pardonnés, afin que vous croyiez que le Fils de l'homme a pouvoir de pardonner les péchés. Je te le dis, jeune homme, lève-toi, prends ton brancard et marche. Voilà un certain nombre de choses que je voulais essayer de vous partager pour qu'on touche du doigt le mystère de la miséricorde de Dieu. Dans cette année de la miséricorde, si vous voulez, l'enjeu, c'est de découvrir que la miséricorde, d'ailleurs, c'est le titre du livre qu'a produit le pape François, c'est le nom de Dieu. La miséricorde, ce n'est pas un moment. La miséricorde, c'est la présence de Dieu. Et donc, si la pastorale de la santé est signe, y compris si nous on a l'impression qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait, qu'on ne voit pas très bien quels sont les fruits, c'est pas grave. Si la pastorale de la santé est signe de cette miséricorde de Dieu, d'un Dieu qui se met à genoux au pied de ses disciples, vous avez lu comme moi, c'était le jeudi saint, Jean 13, d'un Dieu dont il est dit dans l'hymne aux Philippiens, parlant du Christ, lui qui était l'égal de Dieu, il s'est vidé pour se faire homme et pour se faire doulos, pas diakonos. Diakonos, c'est le serviteur, ça donnait les diacres. Doulos, c'est l'esclave. Dieu se fait esclave pour nous faire vivre. Dieu se fait esclave pour que nous advenions dans une dignité. C'est ça ce qui est extraordinaire dans la miséricorde. C'est de se dire, mais qui donc est Dieu? Vous savez, il y a une hymne. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est ce Dieu qui va jusque-là? Et que un des enjeux de la pastorale de la santé, c'est de toucher du doigt, à travers ce qu'on vit quotidiennement, avec toutes nos fragilités, etc., jusqu'où va l'amour de Dieu? Et donc, oui, si vous avez l'impression de servir à rien, si vous vous demandez quelle est l'efficacité de ce que vous faites, etc., si vous êtes présent là où ça souffre, et si cette souffrance peut advenir dans des pleurs ou dans des paroles, parce que les pleurs disent parfois des choses profondes, qui ne sont pas toujours intelligibles, mais elles disent des choses profondes. C'est pour ça que c'est une béatitude, je vous signale. Hein. Béatitude, les pleurs. Donc, c'est complètement idiot quand on dit qu'il ne faut pas pleurer. Hein. Bon. Si vous êtes témoin de cette souffrance qui s'exprime soit dans des mots, soit dans des pleurs, vous êtes au cœur même du mystère de la miséricorde de Dieu. Au cœur même. Même si ça ne passe pas par des formes sacramentelles. Bien sûr qu'il y aura des enjeux sacramentels de la miséricorde de Dieu. L'Eucharistie et la réconciliation sacramentelle sont des formes. Mais j'allais dire, il n'y a pas que ces formes-là. Et c'est pour ça que je dis toujours, l'enjeu de la communion, c'est la communion pour des gens qui sont excommuniés. Et dans quel sens je dis excommuniés ? C'est pas seulement qu'ils aient l'hostie consacrée. Parce que, et tout à l'heure quelqu'un m'en parlait, il y a des gens dont on ne sait plus trop s'ils savent ce qu'ils font, et d'ailleurs on s'aperçoit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font puisqu'ils recrachent. Ou... Bah oui, arrêtons de vouloir à tout prix donner la communion à des gens pour lesquels la vraie communion, c'est notre présence. La vraie communion, c'est notre sourire. Vous voyez ? Ne soyons pas obnubilés par la sacramentalité de la foi. Elle est essentielle, cette sacramentalité. Mais nous sommes sur des terrains où cette sacramentalité est moins évidente. Mais où, par contre, l'enjeu de foi, c'est-à-dire l'enjeu de signifier la miséricorde, est essentiel. Et donc, si nous en sommes les témoins, aussi bien auprès des gens malades, et je le répète, je pense aussi très fortement aux malades psy, hein, auprès des personnes handicapées, et vous voyez qu'il y a des fois des moments quand... Ça m'est arrivé, je me souviens, quand je confirmais, de confirmer des jeunes profondément handicapés. C'était extraordinaire. Parce que je ne pouvais que faire confiance. Parce que, visuellement, je me demandais ce que je faisais. Alors les animateurs me disaient, si, ils sont prêts. Et moi, je signifiais la grâce. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'on a trop souvent dans l'Église tendance à ne signifier la grâce que quand intellectuellement on l'a compris. Et moi, ça m'a aidé énormément de marquer le front de gens où je me demandais s'ils percevaient quelque chose. Et je me disais, je suis sûr que la grâce les rejoint autant qu'elle m'a rejoint quand j'étais ordonné prêtre. Et que ça vous bouscule intérieurement parce que vous êtes plus à même de découvrir la grâce de Dieu un peu partout. Et donc, si vous la découvrez un peu plus un peu partout, vous avez plus tendance à rendre grâce. C'est tout bête, hein ? Plus vous voyez la grâce à l'œuvre, plus vous avez envie de rendre grâce. Y compris, bien sûr, de manière eucharistique. Je vais m'arrêter là ? Oui. Il est prévu, normalement... Voilà, il était prévu que je parle de jusqu'à 15h35. Hein. Comme tout à l'heure, je répondrai peut-être à des questions et que j'aurai des réactions. Il ne faut pas que je vous inonde de paroles. Hein.
Est-ce qu'on pourrait chanter « Que vive mon âme à te louer » ? Et puis, Cécile, s'il te plaît, vous avez les paroles sur la prière de ce matin.
deux mots. Le premier, c'est que si vous connaissez le rituel, le petit rituel marron que les prêtres ont et que peut-être vous avez en équipe, c'est le rituel des sacrements aux malades. Et vous avez repéré que le premier, c'est la visite. Eh oui, proposer le sacrement des malades, il ne faudrait pas oublier que justement, c'est ce que vous faites en visitant. La visite est le premier. Alors, lisez les notes pastorales, qui sont très intéressantes. Ce n'est pas Jean-Marie Onfray, hein, c'est très officiellement la parole de l'Église sur le sacrement des malades. C'est pas le, c'est les sacrements des malades. Et que le premier, c'est la visite. Donc, n'oublions pas que notre visite est sacramentelle. Alors, je ne vais pas revenir, parce que c'était tout le sens de ce que j'ai dit aujourd'hui. Alors, sachant que notre visite est sacramentelle, c'est vrai qu'il y a aussi l'onction des malades. L'onction des malades, qu'on appelait naguère extrême onction, qui depuis le Concile est devenue l'onction des malades et est proposée assez largement dans les communautés chrétiennes, à un moment où les gens sont relativement encore valides, c'est-à-dire peuvent y aller soit sur leurs pieds, soit sur un fauteuil, et c'est quelque chose de merveilleux quand dans une paroisse, on réunit 15, 20, 30 personnes pour vivre avec la communauté chrétienne la joie du sacrement des malades, pour dire les malades ont toute leur place dans notre communauté. Bien. Mais il se trouve aussi que nous avons à vivre, lorsque nous sommes en hôpital ou en EHPAD, une onction extrême. Je n'ai pas dit une extrême onction. Une onction extrême, c'est-à-dire une demande à un moment où les choses vont mal. On n'est plus dans la réalité paroissiale, c'est une certaine urgence. Vous voyez, la réalité paroissiale, on dit il y aura l'onction des malades tel dimanche dans le temps pascal. Bon, ben, on prévoit ça 6 mois à l'avance. Il y a des onctions extrêmes, c'est-à-dire qu'il y a des gens où soit eux, soit la famille disent et demandent ce serait bien, ne croyez-vous pas que, ou l'accompagnateur, accompagnatrice que vous êtes, fait la proposition, est-ce que vous ne pensez pas que vous pourriez recevoir le sacrement des malades? Alors d'abord, ça se pose à des gens qui sont pratiquants et qui vivent des sacrements et pour lesquels ça veut dire quelque chose, que c'est tant mieux si jamais ça peut se faire, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, hein, mais que ça ne se propose pas à n'importe qui, qu'ensuite c'est vous qui le préparez, et que de fait, dans la théologie de l'Église, seul le prêtre peut donner le sacrement des malades. Si vous avez un prêtre sous la main, puisque nous sommes dans une onction extrême, hein, autrement, vous dites à la personne, bien, au 4e dimanche de Pâques, il y a l'onction des malades dans telle paroisse. Hein. Mais si on est dans une onction extrême, si vous avez des prêtres sous la main, tant mieux. Je m'aperçois dans pas mal de diocèses de France, on n'a pas obligatoirement des prêtres sous la main quand on le veut. Et à ce moment-là, il y a de prévu un temps de prière et on prévient la famille. On ne peut pas toucher un prêtre, surtout si vous voyez, si on est dans l'onction extrême, on va faire ce qu'on appelle la recommandation des mourants. C'est-à-dire que la personne laïque est aumônier va assumer le fait que oui, on est en fin de vie. Oui, c'est important de se confier à Dieu et on va ensemble prier. Et par exemple, elle pourra faire le signe de croix sur le front et dire à la famille, vous pouvez vous aussi faire un signe de croix sur le front. Ce n'est pas du Canada Dry, ce n'est pas un pseudo sacrement des malades ou une pseudo-onction des malades. C'est dans l'hypothèse où on ne peut pas avoir un prêtre dans une onction extrême, la possibilité d'accompagner au nom de l'Église et dans la foi quelqu'un. Voilà, je ne veux pas en dire plus parce qu'il faudrait faire une journée sur le sacrement des malades. Deuxième question, puis j'ai dit que j'aurais 1 minute par exemple. Les limites de l'attachement. C'est une question qui nous est posée à tous, hein, à laquelle moi je n'ai pas de réponse, sauf que si vous tombez de l'empathie dans la sympathie, il faut faire gaffe. Alors je vous prends juste un exemple. C'était Nadine, que je connaissais bien, qui était aumônier dans une clinique, et quand j'avais été donc dans cette clinique pour faire un peu un temps de relecture, et Nadine, avant la réunion, me dit, tu sais Jean-Marie, papa et maman, ça va de plus en plus mal, je suis inquiète, alors elle me parle de son papa et de sa maman, et puis après on commence la réunion, et puis Nadine parle d'une vieille dame, et je sentais dans la voix, luc, 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 luc. J'ai dit à Nadine, Nadine, on ne parle pas de ta maman. Et Nadine, une semaine plus tard, a démissionné de l'équipe, avec raison. C'est-à-dire qu'elle faisait des transferts. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle voyait une personne âgée, elle pensait à sa maman, et ça l'inquiétait. Bon, ben, elle s'occupe de sa maman, et d'ailleurs elle assume des sépultures dans une paroisse, elle le fait très très bien, mais elle s'attachait trop. C'est-à-dire qu'elle n'était plus dans l'empathie, mais ça résonnait trop en elle. Mais c'est elle qui l'a décidé, moi je lui ai pas dit, il faut que tu arrêtes. C'est elle qui a senti qu'elle s'investissait trop. Mais c'est la même chose pour des aides-soignantes en EHPAD. Il y a des aides-soignantes qu'il faut aider à ne pas s'attacher, parce qu'autrement elles sont démolies par la mort de la mamie. Et le métier, il doit continuer. Alors, c'est pas si simple que ça, si vous voulez. Et c'est là où, quand on parle en équipe, on peut dire à quelqu'un, attention, t'as remarqué que là, tu as de la voix tremblante quand tu parles de telle personne. Il n'y a pas qu'une malade, il faut que tu sois présente à tous. Mais ça ne se décide pas. Hein. Moi, je ne peux pas savoir à l'avance si je vais m'attacher ou pas aux gens quand je les rencontre. Hein. Alors après, quand on sent que ça je vous ai dit, hein, il faut que ça remue dans l'espace de vie. Mais je n'ai pas dit dans le cœur. Hein. L'espace de vie, c'est les tripes, enfin c'est l'utérus, même pour nous hommes. C'est pas la même chose. Hein. C'est là où il y a un enjeu de vie, ça remue. Mais si ça remue trop dans mon cœur, il faut que je fasse gaffe. Alors après, vous me direz, c'est pas facile de distinguer entre le ventre et le cœur. Bon, vous travaillerez un peu la question, mais c'est pas le même organe. Hein. D'accord ? Troisième question. Notre présence par rapport à l'Eucharistie. Imaginez la même chose que sur les sacrements des malades. Je crois au sacrement. Je vous assure que je crois au sacrement. J'ai fait des centaines de conférences sur les sacrements. Je crois au sacrement. Mais je crois aussi à tout ce qui environne les sacrements, qu'on appelle aussi parfois des sacramentaux. Je crois qu'un sacrement, ce n'est pas de la magie. Et qu'un sacrement s'inscrit dans une relation. Et que la relation est essentielle. Et quand je regarde Jésus, je m'aperçois que c'est cette relation qui est essentielle. Alors oui, on peut donner l'Eucharistie, mais la présence à la personne est plus importante, ou autrement on risque la magie de l'objet sacré. Alors que ce qui est en jeu, c'est la communion, et d'ailleurs qu'on va porter la communion de l'Église. Donc on établit, je vous disais tout à l'heure, ces gens se sentent excommuniés parce qu'ils ne sont plus dans la communion qui se retrouve, on va signifier le lien. C'est évident que si la personne souhaite et peut recevoir l'Eucharistie, il n'y a pas de problème. Mais si la personne n'a plus toute sa tête, si la personne n'est pas en plein état, etc., il n'y a aucun problème non plus. Je lui ai signifié la communion de l'Église. Et point à la ligne. Et ne dites pas que je suis en dehors de la foi, puisque l'Église officiellement depuis des années dit pour les divorcés remariés, communion de désir. C'est donc qu'on peut vivre sans communier au corps du Christ. Ou alors autrement, on mettrait dans la mort tous les divorcés remariés. La mort spirituelle. Donc vous voyez qu'il faut qu'on soit aussi logique. Si on dit que la communion de désir est importante, ben oui, la communion de désir est importante. Et donc l'essentiel, c'est cette communion, ce lien que je signifie. Fût-ce sans l'Eucharistie. Et donc faisons attention de ne pas nous bloquer. Communion égale Eucharistie. C'est plus large que cela. J'espère être clair dans une réponse très rapide. Être démoli par ce qu'on entend. Alors ça dépend ce qu'on met par démoli. Si ça démolit l'édifice que vous êtes, là il faut aller voir un psy ou un psychiatre. Et ça me paraît dangereux. Hein. Mais ça peut arriver. Parce que ça ne prévient pas. Alors ce que j'espère, c'est comme dans mes topos, j'espère que personne ne dira « il m'a démoli ». Que vous soyez secoué, j'allais dire tant mieux. Ça rentabilise mon voyage. Je blague. Mais je veux dire, c'est normal que vous soyez secoué. Ou alors autrement, ce que j'ai dit ne sert à rien. Si vous me dites « vous m'avez démoli », là, je dirais « bah alors, j'en avais pas l'intention » et deux, vous étiez sacrément fragile. Hein. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas le décider. Je vous ai dit, parfois, il y a des gens qui ont des souffrances internes, et ils entendent quelque chose, et ça réactive la souffrance, et ça les démolit. Bon, c'est donc qu'il y avait une grosse, grosse fragilité. Ben, il faut retravailler cela, et reconstruire. Il faut reconstruire. Et de même si je vous ai bousculé, il faut travailler cela. Pourquoi j'ai été bousculé? Pourquoi tel mot m'a fait mal? Vous voyez, toujours. Alors les mots de Jean-Marie Onfray, mais les mots de personnes que je vais visiter. Pourquoi est-ce que telle parole m'a remis au point que j'ai mal dormi cette nuit ou que ça revient sans cesse? Ben, ça veut dire quelque chose. Ben, je réfléchis sur qu'est-ce que ça veut dire. Donc le but, ce n'est pas d'être terroriste, ça peut arriver, mais que ça nous touche et qu'on soit bousculé, ça c'est évident. Moi, je suis bousculé constamment, et à chaque fois, et je sais ça, hélas, souvent, chaque fois que j'ai célébré des sépultures de bout de chou, j'ai été sacrément bousculé et j'ai pleuré en tournant le dos pour essayer d'écraser les larmes. Mais c'est mon problème. Je me dis que le jour où j'aurai plus de larmes, il faudra mieux que j'arrête le boulot. La douleur n'existe pas. J'aurais plus ce que j'ai écrit. Faire ressurgir la souffrance. Oui, alors ça, c'était aussi par rapport à... certains ont été surpris que je dise ben, « je fais revenir la souffrance ». Alors, je ne suis pas sadique, et c'est vrai que je suis prêtre, et ça fait 39 ans que je suis prêtre, et j'ai un peu de bouteille tout de même. Donc, si vous vous sentez dans une certaine fragilité, ou si vous avez peur de voir des gens pleurer, etc., ne creusez pas trop. Vous oblige pas à dire « ah bon, vous êtes sûr que... enfin, » Mais par contre, c'est pas interdit de voir des gens pleurer. C'est pas interdit. Et moi, je vois des enfants qui disent à leur vieille maman veuve, « Maman, arrête de pleurer. » Au nom de quoi il faudrait dire à maman d'arrêter de pleurer? Alors c'est vrai que ça bouscule un peu que maman, au milieu du repas, pleure. Je trouve que c'est pas idiot. Merci, maman, de me montrer ta souffrance, de la partager. Vous voyez, de pouvoir se dire que l'expression de la souffrance... Et tous, j'espère qu'on espère avoir une oreille qui nous écoutera et qui ne lui dirait pas « Oh, je t'entendrai là-dessus une prochaine fois. » Je veux dire que c'est pas de creuser la souffrance, vous voyez, en disant « Ah, je prends plaisir à... » Mais si je sens que ça veut dire quelque chose pour moi, oui, de pouvoir amener l'autre à aller plus loin. Vous voyez, quand vous avez des yeux embués, de pouvoir, même parfois par votre silence, ou par une petite question, de laisser advenir. Si vous êtes capable de ressentir cela, si vous sentez que la dernière fois ça vous a empêché de dormir, n'avancez pas trop, c'est clair. Et puis c'est pas pour ça que vous serez nul. Mais ce que je crois, c'est que c'est pas idiot, j'espère que vous l'avez fait comprendre, de partager des souffrances. C'est un très beau cadeau qu'on peut se faire. Et si vous pouvez le faire en équipe, dans les temps de relecture, je trouve que c'est un très beau cadeau qu'on peut faire, parce que, je le répète, la souffrance exprime une soif d'amour, une quête d'amour qu'on a au fond du cœur. Hein? Offrir sa souffrance pour en sortir, pourquoi pas? Je dis bien la souffrance, pas la douleur. Hein? Bien sûr qu'on peut, mais ne dites pas à quelqu'un « offrez votre souffrance ». Je ne peux pas dire à l'autre de faire un chemin spirituel comme si c'était une évidence. Mais vous avez des gens... Souffrance, je répète, pas douleur. Hein. Quand vous avez une rage dedans, on peut toujours l'offrir, mais prenez un Doliprane. Mais la souffrance, oui, c'est-à-dire, vous pouvez tout à fait dire que cet amour qui est en vous et qui est blessé, qui a mal, vous pouvez tout à fait dire que vous êtes avec Jésus à Gethsémani, et que c'est dur, mais Seigneur, je te tiens la main et je sais que tu es là avec moi dans cette souffrance. Je le crois tout à fait, qu'on peut offrir sa souffrance, pas sa douleur, mais que c'est une manière... Alors ne le dites pas aux autres, comme si c'était une recette. Mais par contre, que des gens vous disent, tant mieux. Et si vous, il y a des souffrances que vous arrivez à mieux assumer en disant, Seigneur, je ne veux pas garder cela pour moi, je veux te l'offrir parce que je sais que tu partages avec moi cette souffrance, tant mieux. Tant mieux, donc je ne peux que dire oui. Hein. Et c'est pour ça que je ne suis pas gêné par les textes qui parlent d'offrir votre souffrance. Hein. Si on entre dans ce schéma-là. Mais pas les douleurs, eh bien, parce qu'à ce moment-là, on est dans des choses qui ne sont pas claires du tout. Hein. Des gens qui disent « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» ça m'a trahi moi-même si j'ai dit que ce n'était pas bien. Hein. J'ai à l'entendre, ça, bien sûr. Et vous avez raison d'avoir fait le lien avec mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien sûr. Alors, je ne vais pas rentrer dans une discussion théologique. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ben, j'entends la personne qui le dit. Et par exemple, je me suis rendu compte que dire à une maman qui a un enfant handicapé, pourquoi Dieu m'a envoyé ça? Lui dire, mais c'est pas Dieu, ça peut la démolir totalement. Parce que croire que c'est Dieu, ça peut permettre de vivre. Mais si c'est pas Dieu, alors pourquoi? Et là, c'est le grand vide. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans de la théologie. Bien sûr que je ne crois pas que c'est Dieu qui a envoyé. On n'est pas dans de la théologie. On a quelqu'un qui vit une souffrance énorme et qui essaie de donner du sens. Moi, je ne crois pas que ce soit un bon sens de dire pourquoi Dieu me l'a envoyé. Mais ce que je sais, c'est que si j'enlève l'hypothèse Dieu, je vais remplacer par quoi ? Vous voyez ? Et que c'est facile de dire, mais c'est pas Dieu, puis je laisse la personne avec un grand trou. Donc, attention, on n'est pas dans de la théologie, vous voyez ? La théologie, on la fait quand on est à froid. À chaud, il faut que j'accepte que des gens fassent peut-être parfois un chemin qui me paraît curieux. Et si ça aide, c'est comme les gens qui vont voir des rebouteux, comme les gens qui vont voir... Ça y est, il y a des tas de gens qui traversent des choses très dures et qui ont besoin de s'appuyer sur 36 choses. Et je dis toujours, essayez de ne pas donner du fric. Mais en même temps, moi je ne suis pas dans leur peau. Qu'est-ce que je ferais et quand vous affrontez des situations, bon, on vous dit, bah, tiens, si tu vas voir telle personne, et puis bon, alors il ne faut pas faire n'importe quelle connerie, mais je veux dire, il y a des gens qui, paraît-il, font du bien. Ils font une prière, ils vous imposent les mains. Et puis, vous savez, c'est l'effet placebo. Bah, si la personne, elle trouve que ça lui fait du bien, bah, tant mieux. Mais il faut, devant la souffrance, il ne faut pas avoir des grandes affirmations. Vous avez dit que la souffrance est une naissance, ça je le crois tout à fait, elle peut devenir une naissance. Elle est une mort à plein de choses. C'est un mystère pascal, mais elle peut être une naissance. Mais c'est pas si simple que ça de passer de la mort à la vie. Hein. Et si vous avez eu à traverser les souffrances, vous le savez bien que c'est pas si simple, il suffit pas de claquer du doigt. Hein. Ou il suffit pas que quelqu'un vous dise, « Oh, vous allez voir, il va y avoir une résurrection. » Réjouissez-vous le jour où vous la sentirez au cœur de votre existence. Hein. Réconciliation entre les défunts et les vivants, mais bien sûr que je crois que c'est possible, enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent les défunts, mais je dis toujours que la réconciliation, si vous voulez, est tout à fait possible, y compris avec des défunts. Le pardon, c'est d'abord la personne qui pardonne, à qui ça fait du bien. Je ne sais pas si ça va faire du bien à l'autre, mais moi, pardonner, ça me fait sortir de la haine. Et par exemple, je connais des gens qui en veulent encore à leurs parents qui sont morts. Et c'est leur vie à eux qui est bousillée. Hein. Les parents, ils s'en foutent. Hein. Ils sont 6 pieds sous terre. Ou ils sont venus ensemble. Mais si j'arrive à entrer dans une démarche de pardon, je vais pouvoir vivre, y compris... Je pense, par exemple, que Boris a son nom. Je l'ai accompagné des années. Son père l'a baisé quand elle était gamine. Elle s'est mariée. Et à chaque fois qu'elle faisait son amour, son... Marie faisait l'amour avec elle, elle avait l'impression que c'était son père. Ils ont divorcé, et sur ses enfants, 3 enfants, il y en a 2 qui sont homosexuels. Elle n'a cessé de me dire que c'était elle qui était responsable. Je lui disais, il faut que tu puisses dire à ton père avant sa mort que c'était un salaud et qu'il a bousillé ta vie. Elle n'a jamais réussi. Il est mort. Après, elle allait voir sa maman, et la maman, à chaque fois, lui disait, ton père était un saint. Et je lui ai dit, il faut que tu dises à ta maman, c'était peut-être un saint, mais voilà ce qu'il a fait. Et j'ai même ajouté, d'autant que je suis quasi persuadé qu'elle le savait. Sa mère est morte, elle ne lui a jamais dit. Et je lui disais, il faut que tu arrives, pas pour eux, mais pour toi, à pardonner. Parce qu'autrement, jusqu'à la fin de ta vie, ça va bousiller ton existence. Ce qui est déjà fait depuis plus de 30 ans. Vous voyez, je crois qu'on peut se réconcilier dans le sens, non pas où on va discuter avec l'autre, mais qu'on peut pardonner pour dire « je n'ai plus envie que la haine habite mon cœur ». Sachant que le pardon, vous le savez, n'est ni l'excuse ni l'oubli. Parce que si j'excuse, il n'y a plus besoin de pardonner. Si j'oublie, il n'y a plus besoin de pardonner. C'est parce que je ne peux pas excuser, c'est parce que je ne peux pas oublier qu'il est essentiel, pas pour l'autre, peut-être pour l'autre, on verra, mais pour moi, que j'arrive à advenir au pardon, pour pouvoir vivre, et ne pas être brisé par ce que j'ai subi. Pardon et miséricorde, là, il faudrait passer du temps, et puis j'espère que vous avez des prêtres ou des gens qui vous parlent de la miséricorde cette année, ou alors, enfin, bon, je ne sais pas ce qu'on fait dans le diocèse de Léars. Bon, la miséricorde, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'expression de l'absolu de l'amour de Dieu. Et qu'il faut en prendre la mesure, c'est-à-dire découvrir jusqu'à quel point Dieu nous aime, jusqu'à quel point il nous aime. Et je dis toujours, découvrir que Dieu est vulnérable, que Dieu se rend vulnérable. Il vient nous aimer jusqu'à mourir sur la croix en Jésus-Christ, c'est ce qu'on a célébré le vendredi saint. Et quand je découvre cela, je découvre cela non pas avec ma tête, mais en découvrant qu'il me rejoint dans mes blessures les plus profondes, là où je suis le plus abîmé. Tiens, petite parenthèse, en 96, j'étais chargé d'accueillir le pape Jean-Paul II et j'avais organisé un séjour en France et entre autres sa venue à Tours où j'avais organisé la rencontre des blessés de la vie. Et j'avais là des gens divers, blessés physiquement, blessés psychiquement, blessés socialement. Et parmi les blessés sociaux, il y avait des prostituées, des orphelins, des clochards, etc. Bon. Et je me souviens de journalistes dans une conférence de presse qui m'avait dit, mais enfin, tout le monde est blessé à vous entendre. Et j'avais dit, tout le monde l'est, mais tout le monde ne le sait pas. Parce qu'il y a tous ceux qui plaignent et font semblant. Et ceux qui plaignent et font semblant ne peuvent pas accueillir Dieu, puisque Dieu se dit dans une blessure, le côté ouvert d'où coule l'eau et le sang, et ne nous rejoint que dans nos blessures. Donc tant que je blinde et que je fais semblant, je ne peux pas accueillir. C'est pour ça que c'est très intéressant de toucher du doigt nos souffrances, parce que je touche du doigt mes blessures. Elles ne sont pas cicatrisées. Et vous savez, c'est une blessure, c'est comme certaines cicatrices, vous grattez un tout petit peu et hop, ça saigne. Et Dieu nous rejoint au cœur de ces blessures parce qu'il nous parle dans sa blessure. Et c'est une relation, c'est pour ça... un certain nombre de conférences ont été réunies dans le titre « La rencontre de vulnérabilité », c'est que je rencontre Dieu dans sa vulnérabilité et il me rejoint dans ma propre vulnérabilité. Et ce que je trouve passionnant dans la pastorale de la santé, c'est que nous nous rendons vulnérables. Nous nous rendons vulnérables en allant voir des personnes malades, des personnes handicapées, des personnes vieillissantes. Et donc, nous nous rendons capables de nous laisser aimer par Dieu et de nous laisser toucher par la miséricorde. Jusqu'à nous réconcilier avec, jusqu'à porter notre grabat. Je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit aujourd'hui. On ne visite pas pour faire du bien. Oui, enfin, je pense que j'étais clair, mais je le redirai. Enfin, je répète, essayez de pas faire du mal, c'est clair.
Essayez de bien faire.
Essayez de bien faire aussi. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là. Essayez de bien faire, c'est pourquoi il faut se réunir en équipe, c'est pour ça qu'il ne faut pas y aller tout seul, qu'il faut réfléchir, qu'il faut prendre du recul. Tout ça est important, mais je ne sais pas le bien que je fais. Vous vous souvenez de saint Paul? Le bien que je voudrais faire, je ne peux pas le faire, le mal que je voudrais pas faire, je le fais. Vous savez, il faut essayer de ne pas vouloir être pélagien, c'est-à-dire de croire que le bien... Nous savons ce que c'est et que nous construisons notre salut en faisant du bien. Ça, c'est le pélagianisme. C'est Pélage, autant que d'Augustin. Et Augustin, à ce moment-là, va dire non, aucun de nous ne peut construire son salut. Je ne sais jamais si je fais du bien. Et mon salut, c'est un effet de grâce. C'est gratuit. C'est l'amour de Dieu. Donc je ne fais pas les choses pour gagner mon ciel, pour faire mon salut, pour faire du bien. Vous n'êtes pas sauveur de l'humanité, je vous l'ai dit. Il est mort, il est ressuscité, il est sauveur. Je crois en un seul sauveur. Donc, vous ne faites pas semblant d'être sauveur. Par contre, rendez grâce pour ce que vous découvrez dans votre présence auprès des personnes malades, handicapées, vieillissantes, de ce que vous touchez du doigt. Alors, quelquefois, assez souvent, des gens vous disent « Merci, ça me fait du bien. » Vous enregistrez ça. Mais ne dites pas à votre conjoint en rentrant « Ah, j'ai fait du bien aujourd'hui ». Contentez-vous de dire à Dieu « C'est toi qui as fait le boulot. Merci ». Ne vous attribuez pas ce qui ne vient pas de vous. Dépression et péché, là aussi, il faudrait longuement s'expliquer. Le péché, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de se couper de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas appeler n'importe quoi péché. C'est de manquer, si vous voulez, ce que Dieu attendait de moi. Dieu avait un projet sur moi et je manque ce projet. Et c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, que Jésus peut dire à cet homme qui est replié sur lui-même. C'est ça la dépression. C'est, si vous voulez, quelqu'un qui dit « Je n'attends plus rien de personne », il est à fond dans le péché puisqu'il n'attend plus rien de personne. Et c'est, Jésus dira même que c'est le péché contre l'esprit, parce que j'attends plus rien de personne. De même, le pape François, dans Evangelii Gaudium, avait beaucoup développé la cédille. La cédille, c'est quand il n'y a plus de jus. Je fais les choses, mais il n'y a plus de jus. Donc, de fait, là, on est dans le péché. La dépression, ce n'est pas la dépression que tu as péché, c'est la dépression dans ce repliement nous inscrit dans le péché. Alors, La réconciliation ne va pas se faire sortir de la dépression. Mais à quelqu'un qui est dans la dépression, dire « tes péchés sont pardonnés, rien ne te coupe de Dieu », c'est essentiel. Mais vous savez combien c'est difficile pour des gens qui ont fermé les volets de les rouvrir. C'est dur parce que quand on est proche de quelqu'un déprimé, je connais des gens dont le conjoint est déprimé, c'est dur parce qu'on ne sait pas quelle parole dire pour que l'autre ouvre les volets de son existence. Et que, je veux dire, plus rien n'a de goût. De même, il y avait un moine de Bricbel qui avait écrit un livre dans un des chapitres, c'était la quoi bonite. La quoi bonite, vous savez, c'est-à-dire quoi bon. Quoi bon. Quoi bon. Là aussi, il faut que j'entende une parole qui me dise tes péchés sont remis, ce qui te coupe, il faut que tu ouvres ton espace. Mais je le répète, ce n'est pas simple. Et les psys eux-mêmes ont du mal avec les dépressions, pardon.
La dépression est une maladie.
Mais oui, elle est une maladie, mais c'est pas...
Dans certains cas, elle est soignable.
Mais pourquoi Jésus dit la paralysie? Le paralytique, c'est une maladie aussi. Et Jésus, il dit tes péchés sont pardonnés. Pourquoi? Posez-vous la bonne question. Ce n'est pas parce que Jésus il sait que cet homme, il a mangé du chocolat pendant le carême. C'est parce que la maladie, comme si vous voulez, la vieillesse, peut conduire au péché, c'est-à-dire à ce repliement sur soi. Ce qui m'intéresse dans le péché, c'est que je peux le pardonner. Je vous ai dit tout à l'heure, le credo, il ne dit pas qu'il y a du péché. Tout le monde est pécheur. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il ment. L'enjeu, ce n'est pas le péché. L'enjeu, c'est d'entendre dire un pardon. Et donc, quand je vais voir des personnes âgées, il faut que je leur dise qu'ils ouvrent leur fenêtre. Quelquefois, il vaut mieux aussi ouvrir la fenêtre de la chambre. Vous voyez, c'est-à-dire que je dois aider l'autre. Ce n'est pas la dépression égale le péché. C'est que je suis dans une rupture, dans une coupure potentielle avec Dieu. Et moi, je ne suis pas là pour dire ça, c'est un péché. Je suis là pour dire à tout péché. Ben voilà, vous connaissez la phrase. Voilà, c'est ça. Je dois dire que à tout ce qui ferme, moi je. Alors je. L'autre, il va peut-être. C'est pas ça ce qui va guérir de la dépression. De même, le paralytique, il aurait pu rester sur son grabat.
Mais le malade qui est en dépression, il n'est pas forcément pécheur. Mais...
Il est dans une situation de coupure par rapport à Dieu. S'il est. Si vous connaissez des dépressifs qui sont dans une relation profonde avec Dieu, vous m'écrivez. Je vous donnerai mon adresse. Hein.
Non, mais je pense que
parce que
vous voyez, c'est pas culpabilisant de dire que c'est un péché.
Mais le péché, c'est pas culpabilisant, oui, puisqu'on est tous pardonnés.
Mais oui, mais d'accord. Mais...
Le péché, si vous voulez, l'enjeu du péché, mais ça c'est marrant. Vous voyez, ça c'est une faute énorme dans l'Église, c'est qu'on a parlé du péché comme de quelque chose d'atroce. Le péché, c'est merveilleux puisqu'on en est pardonné. Et donc, dire à quelqu'un qu'il est dans le péché, c'est, je vous dis, c'est exactement Marc 2. C'est je peux dire à l'autre qu'il n'est pas enfermé. Vous voyez, c'est ça. Quand je pardonne, je dis à l'autre, tu n'es pas enfermé. Tu peux vivre. Vous voyez, quand je vois des gens qui me disent leur péché, quand je pardonne, je dis quoi? Tu n'es pas enfermé dans ce que tu as fait. Tu peux vivre. Voilà. Eh bien, dire donc tes péchés sont pardonnés, ou le dire d'une autre manière, dire à quelqu'un, mais il faut vivre. Ouvrez vos fenêtres. Vous savez bien que de vous aime, d'ailleurs, je suis là pour ça. Vous êtes en train de lui pardonner son péché, c'est-à-dire de l'aider à sortir de l'enfermement du péché. L'enfermement, dans l'enfermement, il y a enfer. Voilà. Et donc, la personne qui s'enferme est en enfer. Eh bien, mon credo me dit qu'il est descendu aux enfers. Au pluriel. C'était le Sheol. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important. Mais vous voyez, il faut qu'on... Le péché, si vous voulez, c'est important de le nommer parce que je sais qu'il est pardonné. C'est pour ça que c'est important de le nommer. Il n'y a rien de pire, et ça m'est arrivé souvent, toi aussi, Pierre, des gens qui viennent en disant, mon Père, bénissez-moi, je n'ai pas fait de péché. Ah oui, parce qu'ils ont pensé que péché, c'était ça, ça, ça et ça. Donc ça, ils ne l'ont pas fait. L'enjeu, c'est de dire que je suis pécheur parce que je manque à l'ouverture à Dieu. Je me replie trop sur moi-même. Je manque d'espérance, je manque de confiance. Voilà, je suis pécheur et j'ai besoin de réentendre que Dieu m'aime et m'appelle à vivre. c'est une démarche joyeuse et on devrait danser dans le pardon des péchés. Je vous assure que quand on fait des confessions, je n'ai jamais vu quelqu'un sortir et danser. C'est-à-dire quelqu'un dire, mais c'est extraordinaire de pouvoir retrouver de la vie. Il y avait de la mort. Ton fils qui était mort est revenu à la vie, souvenez-vous, dans le Père riche en miséricorde. Donc il faut qu'on redécouvre. Ce n'est pas pour démolir les gens dépressifs, c'est pour dire que même à l'intérieur de la dépression, le pardon des péchés ouvre une porte, ouvre la porte de l'amour de Dieu. Vous voyez ? Et quand dans toutes. Alors on parle de la dépression, mais je dirais, dans toutes nos situations, j'aurais envie de vous dire, bien plus de bien dit que l'Éternel par un envoi. Laissez-vous réconcilier, laissez-vous pardonner. Entrez dans des démarches où vous accueillez le pardon pour vivre. Combien il y a de gens, vous savez comme moi, que la réconciliation, c'est parmi les sacrements les plus en déshérence. Parce que les gens pensent qu'il faut trouver des trucs qu'on n'a pas fait. Le premier truc qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas été suffisamment à l'écoute de Dieu. Qu'on n'a pas été suffisamment dans la confiance. Qu'on finit par perdre espérance. Et que j'ai besoin qu'il me soit redit que Dieu m'aime, quel que soit ce que je vis, et qu'il a envie que je vive. Alors après, ça ne va pas me faire sortir de la dépression. Hein. Même que si je suis âgé et que j'ai l'impression que plus personne ne m'aime et qu'il ferait mieux de venir me chercher, etc. Mais je vais avoir entendu une parole de réconciliation, une parole de pardon, une parole de vie. Et ça, c'est extrêmement important. Et je répète, ce n'est pas seulement sacramentel par le biais du prêtre, vous en êtes les témoins. On arrête là ? Donc, Pierre m'a demandé de clore et de faire ce qu'on appelle un envoi.
Le refrain, elle est près de croire cette parole.
Voilà.
On va peut-être se lever. Et tu prends le refrain, elle est près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix du Seigneur.
Merci à vous et à tous ceux qui participent à la pastorale de la santé. J'espère aujourd'hui avoir donné le sens de cette mission. Merci à Dieu qui vous a appelé, puisqu'on est là uniquement en réponse à l'appel de Dieu, et c'est notre vocation baptismale la plus belle. Merci à l'Église qui vous a envoyé, de manière directe, indirecte, cette Église de Léars, cette Église qui est la vôtre, dont vous faites corps, avec laquelle vous faites corps, mais vous êtes ce corps de l'Église. C'est important qu'on soit toujours dans l'action de grâce par rapport à cet appel, par rapport à la mission qui nous a été confiée. Mission auprès des malades, mission auprès des soignants, mission auprès des aidants familiaux, parce qu'il ne faut pas les oublier ceux-là aussi, et qu'ils sont à la tâche et sans du tout l'avoir choisi. Alors là, ce n'est pas une mission qu'on leur a confiée, c'est que ça leur est tombé dessus d'un seul coup, et donc gardons-les dans notre attention, dans notre prière. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde, qu'il soit avec nous dans ce que nous vivons les uns et les autres, aussi bien dans des moments de joie que dans des moments difficiles. Que Dieu nous donne de ne pas tomber dans l'aquabonite ou dans la sédie, dans l'impression que ce que nous faisons ne sert à rien. Que Dieu au contraire nous donne le goût de l'action de grâce, du rendre grâce. Que Dieu nous donne le goût de ce merci qui jaillit de nos cœurs. De l'action de grâce comme Marie qui, après sa visitation, cette visite qui est devenue visitation puisque les deux entrailles ont remué, de cette Marie qui exulte de joie, qui rend grâce à Dieu pour son action auprès des plus petits. Et que Dieu qui est toute puissance d'amour, toute miséricorde, vous bénisse, vous garde dans la mission qui est la vôtre, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.
Amen.
Allons tous dans la paix du Christ, puisque c'était l'envoi de la dimanche dernier, le Christ ressuscité. Donc, nous envoyer dans la paix. Donc, allez tous dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Un grand merci à Jean-Marie. Et qu'il faut revenir, hein, on pourra peut-être leur demander de revenir pour qu'on puisse enfin visiter comme il faut gros. Alors, un merci à vous tous aussi et bon retour. Et bon ministère.
J'ai dit ce matin, si vous voulez, conditionne déjà complètement ce que je vais dire cet après-midi sur la dimension spirituelle, puisque ce matin, je vous ai dit, je ne fais pas les choses par ma bonne volonté ou pour exercer de la bientraitance à l'égard de ces pauvres gens qui sont malades. Je suis l'Église présente à des gens qui devraient être avec nous et qui ne peuvent pas être avec nous à cause de la maladie, à cause du handicap, à cause du vieillissement, ils ne peuvent plus se déplacer. L'Église manque. C'est elle qui manque, et donc je suis une excroissance de l'Église pour permettre une communion. C'est pour ça que tout cela est bien plus important que l'hostie. L'hostie est un élément de communion, mais le plus important, c'est la communion avec des gens qui sont excommuniés. Ils sont excommuniés parce que ils ne peuvent plus participer à la communion. C'est tout bête, c'est étymologique. Donc ces gens qui sont excommuniés, on ne les a pas excommuniés, mais ils sont excommuniés. Et je vous dis, il y a des gens qui disent, mais enfin, pendant des années, j'étais là, plus personne ne me fait signe. Et voyez bien, tout à l'heure, vous disiez, comment savoir ? Bah oui, demandons quels étaient les gens qui et qu'est-ce qu'ils sont devenus. Les gens qui étaient là, etc. Bon. Donc, le souci de ceux qui devraient être là et qui ne peuvent pas y être, pour que l'Église soit le corps du Christ. Et donc, signifier à ces gens-là, en établissant un lien de communion, de signifier à ces gens-là, qu'ils font partie de l'Église. Alors je voudrais là partir d'un texte que vous connaissez bien, qui est Marc au chapitre 2. Marc au chapitre 2, c'est Jésus qui est à Capharnaüm, sans doute dans la maison de Pierre, qui est une petite baraque. Ceux qui vont à Capharnaüm la voient. La pièce, une douzaine de personnes, ça fait déjà remplir. Bon. On nous dit qu'il y avait tellement de monde, n'imaginez pas une pièce comme celle-ci, qu'il y avait tellement de monde qu'on ne pouvait plus rentrer dans la pièce. Et des gens amènent un paralysé, vous connaissez ce passage. Ils sont inventifs, ils ouvrent le toit qui était fait sans doute de branchage, et ils font descendre la civière. Que nous dit le texte ? Voyant leur foi, notez qu'ils n'ont strictement rien dit, hein. Je vous ai dit ce matin, la foi c'est ce qui se voit et pas ce qui se dit, contrairement à ce qu'on dit trop souvent dans l'Église. Hein. Voyant leur foi, Jésus dit aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés. Pourquoi il dit cela ? Parce que le pire, ce n'est pas d'être paralytique. Le pire, ce n'est pas d'être handicapé, ce n'est pas d'être vieux, ce n'est pas d'être malade. Le pire, c'est d'être coupé de Dieu. Et ça, il faudrait que nous, croyants, nous le pensions. Le pire, c'est d'être coupé de Dieu. C'est ça le péché. Et c'est vrai que la maladie, surtout quand il y a des formes de dépression, le handicap et la vieillesse conduisent hélas, trop souvent, à avoir l'impression que Dieu nous a oubliés. Ce qui est le péché, c'est ça le péché, c'est pas de manger du chocolat, c'est de croire que la communication est coupée avec Dieu. Et c'est vrai que nous ne cessons de rencontrer des gens, et c'est pour ça qu'il ne faut pas immédiatement partir sur le bon Dieu,